Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Je vous propose aujourd'hui une petite séance un peu chauvine en évoquant l'histoire des Français dans l'espace et en retraçant les contributions significatives de la France à l'exploration spatiale. Depuis les premières initiatives nationales jusqu'à la participation active aux missions internationales, les Français ont joué un rôle important dans la conquête de l'espace. L'aventure spatiale de la France commence, comme un petit peu partout dans le monde, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. En effet, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés s'intéressent de près aux travaux réalisés par les Allemands sur les fusées. Et chaque pays s'efforce de collecter un maximum d'informations techniques et de s'adjoindre l'aide de techniciens allemands ayant travaillé sur les fameuses V2. Pour la France, c'est le laboratoire de recherche balistique et aérodynamique, le LRBA, qui est chargé de mettre au point les premiers engins aboutissant à des fusées-sondes appelées Véronique. Ces développements intéressent à la fois les scientifiques mais aussi les militaires. La guerre froide, le lancement de Spoutnik et la politique d'indépendance du général de Gaulle placent bientôt la recherche spatiale dans les priorités du gouvernement. En 1959 est formé le comité de recherche spatiale, le CRS, chargé de coordonner les activités spatiales françaises. La même année, l'industrie aérospatiale crée la Société pour l'étude et la réalisation d'engins balistiques, la SEREB, dont les réalisations militaires aboutiront à la fusée Diamant, le premier lanceur spatial français. Pour mener un véritable programme spatial, il manque un organe de coordination et d'animation. Il est créé le 19 décembre 1961 sous la forme d'un établissement public nommé le Centre national des études spatiales, le CNES. Sa première mission, c'est de placer la France dans le club des puissances spatiales aux côtés de l'URSS et des États-Unis. Cet objectif est atteint le 26 novembre 1965 avec le lancement de Diamant A depuis le Centre interarmé d'essais d'engins spatiaux à Amougir en Algérie. La France devient la troisième nation, après l'URSS et les États-Unis, à placer un satellite en orbite avec son propre lanceur. Le satellite, appelé Astérix, est lancé avec succès le 26 novembre 1965. De 1961 à 1981, le CNES est le moteur de l'Europe spatiale. Durant ces années, les structures indispensables à un programme spatial sont mises en place. Les lanceurs, les satellites, un centre d'opération, un réseau de stations de contrôle, des laboratoires, etc. Alors que les autres États européens ont de fortes réticences pour s'engager. Parallèlement, une industrie spatiale compétente et dynamique voit le jour en France. Dans les années 80, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, que le CNES a contribué à créer, qu'il a doté de la fusée Ariane, devient une grande agence et de nombreux programmes à vocation internationale lui sont confiés. Le CNES, lui, voit son budget chuter notablement. En 1977, les directives du gouvernement mettent l'accent sur les missions prioritaires de l'établissement, qui sont notamment qualifier le plus rapidement possible la fusée Ariane et lancer sa production dans le cadre de l'Agence spatiale européenne. Le CNES finance les deux tiers du programme et assume par délégation la direction industrielle pour le développement de la production. Cet objectif est atteint le 24 décembre 1979 avec le lancement réussi d'Ariane 1 depuis la base de Kourou. Le lanceur est amélioré plusieurs fois pour aboutir à Ariane 4 qui assure très vite la majorité des lancements commerciaux. Jusqu'en 2003, 144 Ariane de première génération ont été lancés, dont 116 Ariane 4, avec un taux de succès exceptionnel. Ariane 5, plus puissant, est étudié pour prendre la suite. Le CNES doit aussi faire l'étude interne d'un programme national de satellites d'observation de la Terre. Ce sera le projet de satellite SPOT, dont l'étude est réalisée au Centre spatial de Toulouse. Il semble bien que ce soit une compensation donnée aux ingénieurs de Toulouse, parce que la nouvelle politique les a laissés un petit peu sans programme majeur. La décision est néanmoins judicieuse, puisque SPOT va devenir un programme phare du CNES. Le programme spatial français, et très vite le programme spatial européen, ont permis à l'industrie de développer des compétences dans des domaines des équipements, composant les lanceurs, les satellites, mais aussi en maîtrise d'œuvre de ces ensembles très complexes. Le CNES, maître d'ouvrage, a contribué à l'acquisition de ces compétences, et il poursuit cette action, notamment sur la qualité et fiabilité, et les procédures de management, et la formation des jeunes ingénieurs, aux techniques spatiales. La présence à Toulouse d'un campus spécialisé dans l'aéronautique et le spatial avec l'ISAE, Superhero et l'IPSA prouve bien ce soin vers la formation des futures générations d'ingénieurs. Les activités du CNES en faveur de la recherche scientifique ne diminuent pas pendant cette période, mais les réductions de budget orientent les réalisations vers des programmes en coopération et vers des expériences embarquées sur les satellites de la NASA, de l'URSS ou de l'ESA. Un programme très actif de fusées-sondes et de ballons stratosphériques et troposphériques est aussi poursuivi. Il permet aux laboratoires scientifiques de poursuivre leurs recherches et de maintenir des équipes compétentes. Mais les fusées Ariane et les satellites ne sont pas les seuls ressortissants français dans l'espace, puisque plusieurs Français vont devenir astronautes et faire plusieurs séjours dans l'espace. On se souvient bien sûr de Jean-Loup Chrétien, qui est le premier Français et le premier Européen occidental à voyager dans l'espace. En 1982, il participe à la mission soviétique Soyouz T6, en passant une semaine à bord de la station spatiale Salyut 7. Jean-Loup Chrétien revient dans l'espace en 88 pour une mission prolongée sur la station Mir, devenant ainsi le premier non-soviétique à effectuer une sortie extravéhiculaire. En 1985, Patrick Baudry devient le deuxième Français dans l'espace en participant à la mission américaine STS-51 avec la navette spatiale Discovery. Cette mission de la NASA se concentre sur le déploiement de satellites et des expériences scientifiques. Dans les années 90, c'est au tour de Claudie Aigneret, la première femme française dans l'espace, de participer à deux missions spatiales. En 96, elle se rend dans la station Mir, lors de la mission Cassiopée, et en 2001, elle participe à la mission Andromède, en passant près de 10 jours dans l'ISS. Claudie Aigneret est également la première femme européenne à visiter l'ISS. Et puis comment ne pas évoquer Thomas Pesquet, le plus récent et probablement le plus célèbre des astronautes français. Après une formation d'ingénieur aéronautique à l'Institut supérieur d'aéronautique et de l'espace, l'ISAE à Toulouse, Thomas Pesquet occupe différents postes dans l'industrie aérospatiale et au CNES, avant de devenir en 2005 pilote de ligne. Lorsque l'Agence spatiale européenne lance une nouvelle campagne de recrutement des spationautes en 2008, Thomas Pesquet présente sa candidature pour faire partie du corps européen des astronautes. Il fait partie des 6 candidats retenus en mai 2009, parmi 8413 postulants. Il est le plus jeune des spationautes recrutés par l'Agence spatiale européenne. Il va recevoir une formation initiale au Centre des astronautes européens, qui est à Cologne, en Allemagne, qui s'achève en 2010. Durant cette période, les futurs spationautes, dont les origines professionnelles sont très variées, ils peuvent être médecins, ingénieurs ou pilotes, reçoivent un enseignement homogène. Thomas Pesquet va y apprendre le russe, qui est avec l'anglais l'une des deux langues officielles à bord de la Station spatiale internationale, et qu'il devra pratiquer intensivement durant son entraînement en Russie. À l'issue de sa formation, Thomas Pesquet entame un long programme d'entraînement et d'apprentissage qui doit le préparer à sa future mission à bord de l'ISS. Les formations, selon leur nature, se déroulent soit en Allemagne, en Russie ou aux États-Unis. À la Cité des Étoiles, située dans la banlieue de Moscou, il s'entraîne à piloter le vaisseau Soyouz dans toutes les situations normales, mais aussi d'urgence, durant les phases critiques du vol, c'est-à-dire le décollage, les rendez-vous en orbite avec la Station spatiale internationale et la rentrée atmosphérique. Il s'habitue dans une centrifugeuse à subir des accélérations croissantes jusqu'à 9G, qui pourraient se produire en cas de rentrée atmosphérique non contrôlée. Il effectue des exercices pratiques dans la taïga russe, en Sibérie, pour apprendre la survie en cas d'atterrissage dans une étendue d'eau ou dans une zone située hors du périmètre prévu qui nécessiterait d'attendre les secours pendant 2 ou 3 jours. Il va aussi se former à Houston, au Texas, au Centre spatial de la NASA. Il se familiarise là-bas avec les différents systèmes de la station spatiale, gérés via un réseau de centaines d'ordinateurs portables. Il se forme plus particulièrement à la maintenance des systèmes de support vie. Donc ça, c'est la gestion des systèmes liés à l'air, à l'eau et au gaz dans l'ISS. Il apprend aussi à manipuler les scaphandres qui relèveront de sa responsabilité durant son séjour dans l'espace. La Station spatiale internationale constitue un environnement fragile. Les spationautes sont formés de manière intensive aux procédures d'urgence à appliquer lorsque survient un des 3 grands problèmes. Empoisonnement de l'atmosphère intérieure par l'ammoniac du circuit de régulation thermique, départ de feu ou perte d'atmosphère interne causée par exemple par une brèche dans la paroi. Thomas Pesquet apprend à manipuler le bras télécommandé Canadarm, utilisé pour déplacer les cargos spatiaux, mais également pour déplacer les spationautes dans l'espace. Dans un grand bassin qu'on appelle le laboratoire de flottabilité neutre, qui contient une maquette à l'échelle 1 d'une grande partie de la Station spatiale internationale, Thomas Pesquet répète, revêtu de son scaphandre spatial lourd, les opérations qu'il aura à effectuer en cas d'intervention dans l'espace nécessitant une sortie extravéhiculaire. Il va aussi se former en Allemagne, à Cologne, où il va se familiariser avec l'ensemble du système du laboratoire européen Columbus et à la mise en œuvre des installations et des expériences scientifiques. Le spationaute suit une formation médicale théorique et pratique qui lui permet d'effectuer des gestes médicaux simples, comme par exemple des points de suture, une perfusion ou l'arrachage d'une dent. Et oui, car dans l'espace, il n'y a pas de dentiste. Thomas Pesquet participe aussi à plusieurs stages de préparation destinés à forger l'esprit d'équipe indispensable lors des longs séjours dans des espaces confinés et coupés d'extérieur. Il fait par exemple un trek en autonomie dans les montagnes du Nouveau-Mexique, un stage de survie dans les grottes de Sardaigne. Et dans le cadre du programme NEMO de la NASA, il effectue un séjour dans une station sous la mer. Il est finalement le 10e Français à partir dans l'espace en décollant le 17 novembre 2016 depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, à bord d'un Soyouz dont l'équipage occupe la station spatiale internationale de novembre 2016 à juin 2017 pour la mission Proxima. Durant cette mission, Thomas Pesquet mène une centaine d'expériences, dont la moitié ont été développées par l'ESA et par le CNES, l'autre moitié étant développée par la NASA. Il effectue deux sorties extravéhiculaires de 6 heures pour des missions de maintenance de la station internationale. En juillet 2020, il est sélectionné pour une seconde mission à bord de la capsule Crew Dragon, construite par l'américain SpaceX. Il devient le premier Européen assigné à une mission de bord du Crew Dragon. Mission qu'il décide de baptiser Alpha. Le 23 avril 2021, Thomas Pesquet embarque donc pour la deuxième fois vers la Station Spatiale Internationale. Le 4 octobre 2021, il devient le premier Français commandant de l'ISS. Il rentre sur Terre le 8 novembre, après 200 jours en orbite. Il a réalisé pendant cette mission 134 expériences et 4 sorties extravéhiculaires. Thomas Pesquet est depuis 2021 l'astronome européen le plus expérimenté, avec près de 400 jours dans l'espace, et le plus expérimenté également en sorties extravéhiculaires. Et puis Thomas Pesquet, c'est aussi un excellent communicant. Il est devenu le visage de l'espace en France. Pendant ses 6 mois dans la station internationale, il va prendre sur son temps libre plus de 85 000 photos de la Terre, de la vie à bord ou des tâches quotidiennes de l'équipage. Il a publié quotidiennement les plus réussies, à peu près 2500, sur les réseaux sociaux. La beauté de la Terre vue du ciel à travers ses clichés et la simplicité avec laquelle il a partagé son aventure ont généré un suivi massif de ses publications. Il est le premier spationaute français à partager sa mission vers le grand public. Sa disponibilité et sa pédagogie ont créé un véritable engouement pour son aventure, et plus largement pour l'exploration spatiale en France. Il a notamment été en contact avec France Info et TF1 de manière hebdomadaire pour des chroniques depuis la Station Spatiale Internationale. Il a réalisé des vidéos en haute définition ou en réalité virtuelle qu'il a publiées sur YouTube. Il a aussi collaboré avec des artistes. Comme Yakusek ou Mylan, il a publié sa playlist quotidienne sur Deezer. Il a joué du saxophone à bord de la Station Spatiale Internationale. Quel meilleur ambassadeur pour donner envie aux jeunes générations de continuer l'aventure spatiale ?